Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Roset. Lorsqu'on s'intéresse à la question de la place de la nature dans nos espaces ultra-urbanisés, on s'interroge rarement sur un point précis, le rôle de tout ce qui pousse sans qu'on l'ait décidé, ce qu'on appelle habituellement les mauvaises herbes. Elles sont pourtant riches d'enseignements. Certains y voient même un symbole de notre époque et des luttes qui l'agitent. L'anthropologue Anat Singh appelle ça ce qui réussit à exister malgré le capitalisme. À Dunkerque, une expérience singulière illustre cette idée. Une petite forêt, un espace de nature incontrôlé, installé par deux artistes et laissé intact pendant 10 ans. Mon camarade Thibaut Shepman du podcast Bon Plan a accompagné l'un de ces deux artistes, Steve Abraham, lors de l'ouverture pour la première fois en 10 ans de cette zone unique en son genre. Et c'est son reportage réalisé par Quentin Bresson qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
J'arrive donc près de la forêt du Petit Mince. C'est une forêt un peu spéciale. En fait, il s'agit d'un espace de 10 mètres sur 10 mètres, séparé par des grandes palissades en bois, qui a été installé il y a 9 ans. Et donc là, on va essayer de découvrir ce qui a poussé en 9 ans. On a invité un botaniste qui s'appelle Thibaut Powells, et il va pouvoir nous aider en fait à comprendre tout ce qui s'est passé, comment la vie s'est installée dans cet espace fermé. On y va. Bonjour.
Bonjour.
Thibaut. Thibaut.
Thibaut également.
Enchanté.
Merci d'être là.
Eh ben, avec plaisir.
Donc voilà la forêt que vous connaissez déjà, je crois.
Oui, que j'ai déjà entreaperçu, regardé un peu à travers les trous. Voilà, tu peux.
Là, on attend Steve qui va arriver. Il est vers 14h30, maintenant il dit, donc bientôt.
Bon, on a envie de voir dedans quand même. Où est-ce qu'il y a un trou ? Là, il y a des trous.
Salut Steve.
Bonjour.
Est-ce que Steve, pour commencer, tu peux nous décrire où on est ?
Eh ben, on est sur le Molin, qui est donc un môle portuaire qui date d'avant-guerre, avant Seconde Guerre mondiale. Un môle donc industriel qui a périclité, et donc pas mal de hangars désaffectés et une halle au sucre, une ancienne halle au sucre qui s'appelait plutôt entrepôt des sucres indigènes, qui a été réagencé, on va dire réaménagé, pour accueillir un learning center. Voilà.
Et il y a aussi une forêt.
Et une forêt du Petit Mince, ouais.
C'est quoi son histoire alors ?
Alors son histoire, elle date de 2008. Il faut imaginer que là où on est, bon, actuellement, c'est un immense plateau d'enrobé goudronné. Mais à l'époque, il faut imaginer que c'était plutôt une friche avec des parties de socle de béton qui dataient d'un ancien bâtiment. Et puis une grande partie végétale, une friche végétale en fait. Et donc en 2008, on a eu une réflexion avec Nicolas Messager, là, mon ami artiste, et qui était de dire, c'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent des réflexions sur les friches industrielles, mais bâties. On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une réflexion sur une friche végétale, pour le coup. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette idée de privatiser, ou plutôt d'empêcher toute intrusion sur une partie de cette friche végétale, qui fait 10 mètres par 10 mètres, et de se dire que pendant un temps indéterminé, on empêcherait les gens d'y accéder, et puis voir ce que ça donnerait, quoi.
Et là, aujourd'hui, on a la chance donc d'avoir Thibaut Powells, qui est venu là pour nous aider en fait à faire le bilan de ce qui s'est passé pendant 9 ans. Je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, donc Thibaut Poels, je suis responsable du service éducation, formation, éco-citoyenneté au Conservatoire Botanique National de Bayeul. Donc le Conservatoire, c'est une association qui a un agrément du ministère en charge de l'écologie pour la connaissance, la conservation de la flore sauvage sur le territoire. Et moi, plus précisément, je m'occupe vraiment des actions de diffusion de l'information auprès de tout type de public. Et puis alors ici, bah, c'est super intéressant parce que sur une ancienne friche, dans un contexte portuaire, du coup forcément avec plein d'espèces d'un peu partout qui viennent s'installer toutes seules, on ne sait pas trop comment, enfin si on sait comment, mais voilà, il y a un intérêt un peu à voir comment ça évolue quand l'homme ne fait rien, ouais, un peu.
Je peux te demander de lire ce qui est écrit sur le panneau là, si on se rapproche.
Dans l'esprit de tous, le végétal n'a pas sa place dans un port qui est par définition un outil de production. Pourtant, de manière plus ou moins discrète, les plantes sont partout dans les ports sous la forme de graines, de pollen, venant de tous les pays, agrippées à des ballots de coton, écrasées sous un conteneur, blotties sur un tronc d'arbre, accrochées aux pattes d'un insecte, etc. Le Mol-1, riche de son passé portuaire, possède assurément en son sein nombre de graines endormies, de plantes de toutes sortes, de toutes provenances, qui ne demandent qu'à s'épanouir. L'installation consiste à protéger de toute intervention humaine un carré de 10 mètres par 10 mètres de plantes sauvages pour une durée de 13 ans renouvelable. Pour cela, une grande et belle enceinte en bois sera construite. L'homme aura tout de même un droit de regard dans le but d'éveiller son désir. C'est ça, faut pas montrer, faut à peine dévoiler, c'est le désir. Pour cela, quelques œilletons et meurtrières étanches seront construites et accessibles à tous. À l'occasion des fêtes annuelles de fructose, un escalier d'embarquement d'aviation sera disposé en bordure de l'installation pour permettre à quelques privilégiés triés sur le pavé d'admirer le beau travail de la nature en cours. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que à peu près un an après que l'installation soit faite, il y a donc eu le chantier de le sucre. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, ils ont voulu mettre l'installation de chantier qui était énorme juste à la place de la forêt du Petit Mince, alors qu'on est au milieu d'un espace qui est complètement désert, mais bon, bref. Et du coup, l'association Fructose qui a financé l'installation s'est battue, et puis on a réussi à faire en sorte que l'installation de chantier se mette à cet endroit-là, mais en préservant la forêt du Petit Mince. Donc c'était un peu le village d'Astérix, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que tout le reste de la friche végétale a disparu.
Thibaut, est-ce que vous avez eu le temps de commencer à regarder les plantes ?
Ouais, j'ai regardé un petit peu en écoutant. Sur des. Enfin, là en l'occurrence, des espèces au final assez classiques sur ces endroits-là, avec de la moutarde noire qui fleurit jaune. La roquette sauvage, c'est juste pour le plaisir, mais cette plante-là. Là...
Elle est comestible celle-là ?
C'est le sauvage, il n'y a qu'à sentir, ça sent la roquette, très fort. Il y a une matricaire qui est là, qui ressemble à des fleurs de marguerite, mais vraiment les feuilles, elles sont extrêmement découpées, alors que la marguerite va avoir des feuilles plutôt longues. Voilà, il y a quelques espèces comme ça, il y a de la ronce qui passe à travers les branches. Voilà, donc il y a des choses comme ça, et puis après j'ai repéré, alors pour revenir sur l'aspect porc et puis plantes qui sont venues, sur l'autre côté, alors côté pignon du chai à vin, il y a le sénson du Cap, qui est une espèce qui vient du Cap, donc en Afrique du Sud, et qui a été ramené notamment avec des ballots de textile. Voilà, donc ça fait partie d'espèces exotiques qui sont arrivées comme ça un peu avec l'aide de l'homme et qui s'installent ensuite par chez nous.
On peut aller le voir, le sénson du Cap ?
Bien sûr.
Donc là, en fait, pour l'instant, on n'est pas vraiment dans la forêt. On est autour donc de la protection en bois. Et c'est là que poussent des plantes. Elles n'ont pas respecté les règles, en fait. Elles se sont mises autour de la forêt.
Là, alors, le sénson, il est là. Hop. Pour décrire un petit peu la plante, imaginez une fleur de pâquerette, sauf que les pétales blancs sont en fait jaunes. Voilà, pour se faire une idée. La plante, elle, par contre, est beaucoup plus grande. Elle peut monter jusqu'en étant bien grande à 1 mètre de haut. Et c'est une plante qu'on retrouve beaucoup sur les voies ferrées. Donc les personnes qui prennent le train, quand on attend le train en bord de gare, on voit très souvent le sénson du Cap dans ces endroits-là. Donc c'est une espèce vraiment classique de milieu perturbé et qui va pousser vraiment en bordure. Je serais un peu surpris de la voir à l'intérieur après 10 ans, parce qu'à mon avis, enfin, on verra, mais elle risque fort de se faire étouffer quand même par une flore sauvage qui va être un peu plus costaud, elle va vraiment rester sur des zones de friche. Souvent, on voit la friche comme le truc inculte où il y a eu une espèce de plante, il y a peu d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de diversité, etc. Et en fait, juste là, pour l'instant, on est juste dans les... Il y a quoi, 80 cm ? les zones de bitume et puis la palissade de la forêt du Petit Mince. Sur cet espace-là, il y a quand même déjà une grande diversité. On voit qu'au final, depuis tout à l'heure, ça bourdonne aussi quand même pas mal. Il y a plein d'insectes qui viennent là autour. Il n'y a pas énormément d'autres plantes, enfin, pas de zone aussi fournie à côté. Et on voit que, oui, voilà, juste sur un petit espace comme ça, on va arriver, si on faisait un inventaire précis à quatre pattes à relever toutes les espèces, on serait facilement à 50 espèces, on n'a rien de temps là, sans trop de problèmes.
Je commence à installer, j'allais chercher des échelles, tout ça pour...
Ouais, on va y aller, je vais t'aider peut-être. Ça va aller ? Donc voilà, Steve a sorti deux échelles, un escabeau, une échelle. Vont nous permettre d'escalader les murs de la forêt et pouvoir y rentrer. Ok, ça y est, donc on est descendu, enfin, dans la forêt du Petit Mince.
On n'a effectivement pas la même végétation que ce qu'on a juste de l'autre côté. Il y a quelques espèces qu'on retrouve un peu communes, il y a un peu de chardon, il y a... de la ronce qui prend le dessus sur une partie.
Par où on passe pour aller voir les arbres ?
Par où vous voulez, ça qui est génial. Il n'y a pas encore de chemin dans la forêt.
Il commence à y avoir des arbres. Donc on a là un hêtre qui est arrivé, qui s'est installé ici. Alors il fait un mètre de haut. Le tronc, à la base, au plus large du tronc, c'est un centimètre d'épaisseur. Là, par contre, la difficulté, ce qu'on voit, c'est que donc un être, c'est... Alors, on a un petit truc, il y a un petit dicton, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le être est à poil, donc le bord des feuilles est à poil, en opposition au charme. Je crois que c'est un charme qu'on a... On va regarder après. Donc ici, on voit encore les poils, parce que les feuilles sont encore très jeunes, donc on les voit bien. Mais on voit aussi que ce être-là a soif, parce qu'on est là, pour le coup, en contexte quand même... assez sec, donc il est pas très loin de ce petit chenal, on va dire. Peut-être qu'il arrive à récupérer plus d'eau parce que les eaux de ruissellement vont arriver là. Je disais qu'il avait 4-5 ans, il en a au final peut-être un peu plus parce qu'il a peut-être du mal à pousser aussi. Mais alors pour le coup, le hêtre, donc ici, donc avec ses toutes petites feuilles vertes poilues, on a beaucoup de feuilles là qui deviennent marron parce que voilà, parce que vraiment il a soif. Peut-être qu'il arrivera à se développer. Le hêtre, c'est absolument pas une espèce classique de friche. C'est pas habituellement, quand on va avoir les premiers ligneux, les premiers arbres en friche, on va avoir du bouleau. Ou alors, en espèce exotique envahissante, du buddleia, l'arbre à papillons. Voilà. Il y en a derrière du buddleia, il n'y en a pas ici.
Et là, il peut vraiment passer l'été, parce qu'on est seulement fin juin, il a l'air déjà d'être très en difficulté à cause de la sécheresse.
Après, les arbres et les végétaux, globalement, ils ont quand même des capacités de résistance qui sont assez fortes. Il a réussi quand même à faire des feuilles. Il arrive quand même à bien pousser, malgré le contexte de concurrence. S'il prend de l'eau, il va réussir assez rapidement à puiser et puis à résister tant bien que mal. Après, ça va dépendre un peu de l'été qu'on va avoir. Si ça continue avec un temps très chaud tout l'été, et puis avec un été indien à l'automne, il va avoir beaucoup de mal à survivre. On va regarder le deuxième arbre. C'est pas le même. Un châtaignier. Retrouver un châtaignier, donc on a en fait le hêtre, le châtaignier, des espèces typiques de sol sableux. Voilà, et donc je me serais pas attendu à trouver ça comme arbre en colonisateur dans un milieu comme celui-ci. Alors après, comment il est venu, je sais pas, mais c'est assez rigolo.
Ça peut être un oiseau, ou ça peut être quelqu'un qui a acheté une châtaigne, ça peut être quoi?
Ouais, ça peut être quelqu'un qui a acheté une châtaigne, ça peut être... une châtaigne peut-être qui était dans le substrat, qui était là depuis très longtemps et puis qui a retrouvé à un moment donné des conditions favorables. Bon, on n'a pas beaucoup de châtaigniers dans le coin quand même, donc ça c'est marrant d'avoir ça.
En fait, c'est marrant parce que c'est exactement ce qui est décrit sur le panneau que vous aviez réalisé il y a 9 ans. C'est tout votre espace tend à devenir une forêt, donc un espace colonisé par les arbres. Ouais. Et donc là, effectivement, on a d'abord eu des mousses. En fait, on voit toutes les stades, quoi. Des mousses, des herbes. Là, les ronces, et grâce au tapis des ronces, il y a un châtaignier.
Mmh. Ouais, c'est incroyable. Franchement, je pense qu'on espérait que ça aille peut-être. On imaginait que ça irait peut-être un petit peu plus vite, mais c'est vrai que là, finalement, 10 ans après, c'est top de voir qu'il y a des trucs qui apparaissent, quoi. C'est que ça fonctionne, quoi.
Donc il y a au moins 4 arbres qui ont plusieurs années dans la forêt, quoi.
C'est ça, il y en a au moins 4. Il y en a peut-être des tout petits qui sont en train de sortir à droite à gauche. Mais déjà des grands qui ont déjà une paire d'années. Ouais, allez, 4-5 ans pour. En gros, il y en a un qui doit peut-être avoir un an de plus et puis les autres un peu plus jeunes.
Quand on a fait le projet, c'était aussi l'idée d'avoir éventuellement des espèces un peu étrangères et extraordinaires. Là, tu ne vois pas de choses qui te ferait penser à la petite graine de bananier qui aurait survécu à son voyage et qui se mettrait à pousser. Enfin, après, les conditions sont peut-être pas les bonnes, mais.
Là, comme ça, la seule exotique que je vois, c'est le Sénesson du Cap. Le reste m'a pas l'air exotique, quoi, pour l'instant.
On a tendance à essayer de se demander qui a porté la graine, comment elle est arrivée et tout, mais en fait, c'est tout aussi, voire plus intéressant de se demander pourquoi la graine, elle a pu survivre, quoi.
Ouais, c'est comment tout ça arrive à se maintenir, à survivre, à se développer. Mais ça fait partie des dynamiques naturelles, en fait, où à chaque fois, en milieu naturel, il n'y a jamais de trou. Il y a tout le temps une couverture. Et donc, si on prend... voilà, dans la nature, à un moment donné, je sais pas, il y a un éboulis, il y a un truc comme ça, naturellement, et ben il y a une végétation qui est là, qui est adaptée à couvrir cet éboulis et à réenclencher une dynamique naturelle pour avoir une colonisation des végétaux qui va permettre la réapparition des insectes et puis après des petits mammifères, etc. Et d'avoir cette dynamique-là qui se met en place. Donc c'est vraiment avoir les espèces qui vont bien, qui sont celles qui arrivent le plus souvent à se déplacer le plus facilement. C'est-à-dire que la ronce, c'est quand même un des trucs où celle-là, on se pose pas la question de comment elle est venue. Mais en fait, elle est venue comment, la ronce? Bah, la ronce, elle fait des murs, le premier truc. Hein, on va attendre les murs. Bah, ouais, nous, on les aime bien. Les oiseaux, etc., les aiment bien aussi. Et on retrouve les semences dans les fientes. Et voilà, et elle arrive à se déplacer comme ça. Et le meilleur moyen de se déplacer, c'est d'utiliser les animaux, et notamment les oiseaux, pour pouvoir se déplacer vite et bien et se retrouver dans des milieux qui peuvent être intéressants pour elle.
Parce que c'est quand même un espace qui a été créé par deux êtres humains, dont toi, Steve.
Ah non, tout ce qui est sous nos pieds, ça y était avant qu'on fasse quoi que ce soit, quoi. Nous, on l'a juste accompagné dans sa croissance et on l'a protégé des interventions de l'homme, justement. Mais nous, on n'a rien créé, quoi.
C'est une remarque rigolote, quand même. C'est qu'au final, est-ce qu'ici, c'est la nature? Parce que c'est l'homme qui l'a créé, mais l'homme ne fait pas partie de la nature? Donc au final, même si c'était l'homme qui l'avait créé, l'homme est quand même un élément naturel. Et rien que le fait de se dire c'est l'homme qui l'a créé, du coup on se déconnecte de la nature juste en ayant cette référence-là. Et ça, c'est toujours intéressant de se dire... enfin voilà, de s'écarter de la nature plutôt que se dire on en fait partie entière et intégrante avec notre impact, quel qu'il soit, positif, négatif, sur les autres êtres vivants et l'ensemble de la communauté vivante de la Terre. C'est des réflexions moi, comme ça, des fois, qui font un peu tilt. C'est pas la nature parce que c'est l'homme.
Non, mais c'est vrai que c'est marrant, ça fait quand même pas si longtemps, mais il y a un vrai intérêt maintenant pour la vie qu'il y a dans les friches. Comment vous l'expliquez, cet intérêt-là?
Je pense que c'est plus... Enfin, ça a quand même un petit moment. Enfin, moi, je daterais ça de Gilles Clément. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut, mais c'est vrai que Gilles Clément a apporté un vrai truc où démocratiser les végétations un petit peu plus... ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, les herbes sauvages, tout ça. Je pense que pour moi, ça date de ça, quoi. Peut-être début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000.
Mais c'est beau de voir qu'il peut y rester des choses, ouais, vivantes et fertiles dans des ruines, quoi. Là où il y a eu un passé économique qui est tombé.
Ouais, c'est la base, c'est à partir des ruines que la nature reconstruit. Et à partir des ruines, on peut reconstruire. Voilà. Et la nature reconstruit à partir de là et réenclenche un cycle. Quoi. C'est toujours ces éléments-là. Et au final, même quand on prend une forêt, la forêt, à un moment donné, on a des arbres qui tombent, qui créent des ouvertures, qui créent des clairières, qui créent des nouveaux micro-milieux sur lesquels des arbres vont repousser, etc. On a ces dynamiques-là et c'est tout le temps par des disparitions comme ça qu'on a des nouveaux cycles qui embrayent. Quoi. C'est des dynamiques naturelles qu'on peut retrouver et qu'on retrouve de toute façon.
On va quitter la forêt du Petit Mince.
Ouais, je suis super content de voir que ça pousse. Et, enfin, franchement, c'est une très très belle expérience. On a envie, évidemment, on est plein d'impatience de voir si les petits sujets qu'on a aperçus là vont prendre leurs aises et puis grandir. Et on a presque envie de le faire savoir à tout le monde, en fait, de partager cette bonne nouvelle.
Qu'est-ce qui t'inspire, toi, ces plantes-là qui arrivent à pousser malgré tout ?
Ben c'est génial, mais c'est presque la démonstration qu'on voulait faire en faisant cette installation. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature est toujours plus forte, quoi. Et nous réserve les plus belles surprises qu'on puisse imaginer.
Est-ce que tu as, dans les qualités qu'on trouve dans les plantes qui ont poussé là dans ta forêt, est-ce que tu penses qu'on a des qualités ou des leçons à retenir de tout ça?
La résilience. La résilience, ouais, c'est que malgré tout... Les choses finissent par être belles. On peut retenir ça, peut-être.
Chacun doit un peu y voir ce qu'il veut. Moi, j'y vois la liberté et l'impertinence aussi.
C'est vrai. Ouais, l'impertinence. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement... Enfin, moi, c'est ce que je retenais de très fort quand on a fait l'installation sur le port, c'est que c'était quand même un pied de nez. On était au milieu d'un espace qui est... Un milieu portuaire, c'est un milieu qui a une nécessité de productivité, voilà, où il n'y a pas de place pour le superflu. Et là, d'avoir cet espace végétal comme ça, c'était un beau pied de nez, un beau pied de nez à tout ça, quoi.
Merci à Thibaut Shepman du podcast Bon Plan pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.